Avec Lina Kadobudadi, Daniel Morin, Tom Villa, tout à l'heure Tanguy Pasturo, et il y aura Marina Rolvan également, et nos invités sont Jules et Charles Pépin.
Bravo!
Folie! Folie! Merci de venir à ce micro, Jules et Charles, c'est-à-dire le dessinateur et le philosophe, hein, c'est ça un peu comme ça que vous êtes répartis les rôles. D'ailleurs, je me demande qui précède l'autre dans le travail. On a l'impression par moment que, après avoir lu les planches et les vannes de Jules, Charles, vous dites, alors c'était pas exactement ça à l'époque, et vous revenez vers le droit chemin de la mythologie.
On a une manière de bosser qui est assez originale, c'est que souvent il y a un philosophe qui écrit, il est illustré, il est éclairé par des dessins. Là, c'est le contraire, en fait.
Jules
commence
vanne.
Tout seul.
Ouais.
Il fait un peu tout seul, d'abord, le scénario, les vannes, les idées, les dessins, tout.
Et moi, j'arrive. Il y a la voiture après. Balai qui arrive.
Et j'arrive après, et en fait, je me laisse porter par le dessin.
Mais donc, s'il fait une vanne sur les Uber, sur Emmanuel Macron, ouais. sur les Gilets jaunes, vous l'intégrez, entre guillemets, à votre analyse philosophique.
Ouais, exactement. Et surtout, j'ai un peu, on a un dialogue, enfin, on est très potes, on se connaît depuis longtemps. Et donc, de temps en temps, je lui dis, ouais, c'est ta blague, elle est drôle. Et en plus, elle a du sens philosophiquement, et j'explique le sens philosophique du mythe. Et parfois, je le casse un peu en disant, oui, c'est drôle, mais c'est un peu un contresens sur la philosophie du mythe, et comme
dans
ça on est dans un dialogue.
Dans tous les cas, ça alimente. Voilà,
et dans tous les cas, surtout, moi j'adore en fait faire de la philosophie à partir de ce qui n'est pas de la philo, donc la musique, le dessin, le sport, et donc ça me fait réfléchir de manière nouvelle de voir les dessins de Jules. Enfin.
50 nuances de grec, le premier volume, Jules avait été un énorme succès à plus de 100 000 ou 120 000.
Plus de 100 000, ouais, et puis ça. Ensuite, l'année d'après, il y a eu la série animée qui est passée sur Arte, et à partir de ce moment-là, il y a tout à coup tout un public qui a découvert aussi ce dialogue-là, sachant qu'on avait travaillé avec Charles Pépin sur la philosophie, on avait fait La planète des sages. Mmh. Mais là, la mythologie, c'est encore autre chose, parce que ça touche un public très très vaste. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est par exemple la passion des enfants pour la mythologie. Ils sont extrêmement experts. Moi, je sais que j'ai des fillettes. Elles me corrigent.
On est dans l'excellence de du super-héros. On est dans l'excellence
pardon. Les monstres aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, il y a les monstres, il y a les super-héros. Et puis, il y a cette espèce de généalogie.
Il y a un côté
collectionniste
possible,
de la mythologie. Ouais. On collectionne comme des Pokémon, comme des images rares, chaque mythe, chaque petit monstre. Et en fait, c'est très excitant. Et donc, très souvent, on me corrige en disant « Oui, mais un tel n'a pas couché vraiment avec un tel. » Il y a une deuxième version sur la généalogie d'Artémis. Et donc, tout ça, ça fédère d'une certaine façon les enfants et leurs parents. Et donc, on peut avoir une dimension d'analyse, de politique, de satire sociale. Et Charles Pépin va de ce côté-là. Et puis aussi, juste un côté du plaisir de l'histoire et de ces mythes extraordinaires et tellement... c'est des sagas comme des séries télé.
Alors, à chaque planche, il y a donc, j'ai dit, il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a des vannes sur MeToo et mythologie tout autour de certains jeux de mots, mais il y a toujours du fond. Est-ce que c'est à partir de l'actualité que vous vous dites, est-ce qu'il y a un écho possible dans la mythologie? Est-ce que c'est à partir de l'énergie éolienne que vous vous dites, tiens, je vais aller voir ce qui se passe du côté de ce dieu-là? Ou vous prenez un par un les dieux, ou en tout cas les thèmes de la mythologie, en vous disant comment je peux, de près ou de loin, me raccrocher à l'actualité.
En fait, chaque chose nourrit l'autre. C'est-à-dire que de temps en temps, je me mets à travailler sur un mythe, je lis au sujet d'une divinité ou d'un certain nombre de protagonistes mythologiques. Et il y a tellement de liens avec quelque chose qui se passe autour de nous. Et puis de temps en temps, je regarde les infos à la télé, puis je me dis les gilets jaunes. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner dans l'Antiquité grecque? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et alors c'est Jason et les toisons jaunes. C'est une équipe d'argonautes qui occupe les ronds-points à la sortie de Corinthe, comme ça, et puis de villes pas intéressantes comme Mycène ou Delphes, vous voyez. Et puis, et là, tout d'un coup, je me dis, bah oui, l'inégalité à l'époque de la mythologie entre les mortels et les dieux, c'est quelque chose qui est quand même terrible. Les dieux qui boivent de l'ambroisie à tous les repas dans leur palais en or, et puis les Grecs qui triment pour leur litre d'huile d'olive. Bah oui, c'est marrant de mettre ça en scène.
Bah, c'est François de Rugy, et c'est ça?
Ah voilà,
référence que vous vouliez faire, parce que vous ne le dites pas explicitement, mais l'idée, c'est que.
Ouais, c'est jamais. C'est
voilà, vous comptez sur la coopération active du lecteur pour faire les liens, quoi, on va dire.
J'aime bien la coopération active.
C'est ce qu'on dit en littérature le plus souvent, mais voilà.
C'est ça, mais en fait,
il faut avoir la connexion.
C'est ce plaisir-là, on se dit, mais oui, tout d'un coup, on donne un éclairage, et puis chacun peut rentrer ou pas à l'intérieur du mythe, et à la fois à l'intérieur de l'actualité. Ce que vous disiez, une des choses quand même les plus délirantes, parce que ça fait quelques années qu'on travaille sur la mythologie avec Charles, c'est que dans 50 nuances de grec, on a évidemment mis en scène tous les déboires sexuels des dieux, et des déesses d'ailleurs, mais surtout des dieux. Pan, Dionysos, Zeus, Poséidon, ce sont des harceleurs, des violeurs en chef, ils mettent en scène toute
là,
cette question-là.
Là, ça commence, il y a Priap aussi.
Priap, voilà, le dieu en érection permanente.
Vous nous avez tous calmés sur Priap, quand on lit ça, on n'a plus du tout envie d'être...
Le dieu des jardins, hein, en même temps, c'est mignon, c'est un peu une espèce de nain de jardin maléfique.
Et puis en plus, il est moche, on apprend qu'il est moche, donc on n'a plus envie.
Et tout d'un il est moche, et puis il sert à rien, surtout, il n'y a aucune semence, il n'y a rien du tout.
Et oui, voilà, mais il y a plein de petits détails, un peu comme ça, croustillants, et en même temps, ça fait écho aujourd'hui. Plus que jamais, chaque semaine, depuis le hashtag MeToo, nous on a inventé le hashtag MeToo, ouais. Parce que effectivement, toutes les déesses, toutes les personnalités féminines de cette mythologie folle, elles se révoltent contre cette situation justement de harcèlement permanent, et en même temps, ça nous aide à comprendre aujourd'hui en disant ça sort pas du chapeau tout ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste aussi le terreau judéo-chrétien.
Oui, est-ce que c'était pas finalement pour calmer et pas pour donner l'exemple, mais pour au contraire montrer que les résultats n'étaient pas toujours.
Ouais, disons que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pluralité d'interprétations. Pourquoi chez Homère il y a autant de dieux violeurs et harceleurs? Pourquoi ils se comportent si mal?
On en vient en fonction du mythe aussi, c'est
ouais,
ça.
Parce de poser que, la question.
Soit d'expliquer ce qui existe déjà, soit de justifier une pratique
ouais,
en fait.
Et surtout de ne pas trancher. Ce que je montre dans mon texte en l'occurrence sur MeToo, c'est que on n'arrive pas à savoir si ce que veut nous dire Homère, c'est que au fond de tout désir civilisé et respectueux du consentement de l'autre, il y a quelque chose de violent, de possessif et qui veut posséder l'autre même sans son consentement. Ou alors, s'il veut pas nous dire le contraire. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte quand on lit Homère, ce dont on se rend compte, c'est que, à chaque fois, les problèmes viennent du fait que les dieux ne savent pas se maîtriser, ne savent pas se contenir, ne savent pas se retenir. Et dans ce cas-là, on se demande s'il n'y a pas une exemplarité négative qui serait au
oui,
fait une manière de nous
leur
enseigner.
Perte qui est causée aussi.
Exactement. Et de nous dire que peut-être la vraie virilité, c'est de savoir se retenir, de savoir se tenir.
C'est comme
que
ça
que la vraie vertu virile, c'est de respecter l'autre, au fond.
C'est comme ça que vous concluez votre.
Mais
votre
je conclue par une question, quand même.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est pas aussi explicite que ça.
50 ouais. nuances de grec, le volume 2, et ne sortira qu'à la fin de la semaine, ou il
voilà.
est déjà sorti?
Voilà, vendredi.
Vendredi. C'est chez Darko, et c'est signé Jules et Charles Pépin. On va continuer évidemment d'en parler jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, des questions concernant Charles Pépin et Jules. À commencer par Jules. Jules a été prof. Comment s'est-il tout de suite aperçu qu'il n'avait pas la vocation?
Il n'y avait personne dans la classe.
La patience,
non.
Les copies.
C'est pas une référence.
Il n'avait pas envie d'y aller le matin, les copies, la patience.
Quoi, les copies?
Bah, les corrections des copies, c'est l'enfer.
Exactement.
Ouais. C'est dur.
Tous les gens qui sont profs savent ça.
Vous détestiez corriger les copies.
Bah oui, il y a le côté répétitif. En fait, un des trucs de mon boulot, c'est que il y a un aspect de transmission, de pédagogie. Oui. Évidemment, j'aime bien faire partager le savoir, l'histoire, le transmettre. En revanche, la répétition pédagogique, le fait que bon voilà, quelqu'un a pas écouté, t'es en train de se curéner ou d'envoyer un SMS pendant le cours, ça en fait, ça me saoule. Donc évidemment,
c'est quoi, être le gendarme
d'être le gendarme. Donc j'aime bien une bonne fois pour toutes,
enfin, corriger
publier
les copies,
un livre, faire une blague.
Corriger les copies, c'est pas pareil.
Ouais.
Et voilà, et
C'est pas l'autorité avec fait pas de bruit dans les couloirs. C'est
voilà, mais c'est aussi de l'autorité. D'une certaine façon aussi, j'étais gêné d'être dans la position du professeur, c'est-à-dire de distribuer les bonnes notes. Moi, j'ai été en plus dans un système scolaire un peu particulier. Probablement à donner j'étais un très bon élève, mais en même temps, j'étais dans un système où il n'y avait pas de notes, pas de devoirs, on choisissait ses matières, on tutoyait les profs, on élevait des dindons. C'était un peu un système Montessori, ces écoles alternatives, s'appelait l'école de Crowley. Et en fait, moi, j'ai été énormément marqué par ça. C'est-à-dire que le système hiérarchique.
Mais comment vous pouvez savoir que vous êtes un très bon élève, d'un son, il n'y a pas de notes?
Parce qu'ensuite, j'ai quitté.
Je l'entends, la question du vieux système.
Voilà. Non, parce que ça s'arrête en troisième, ce système-là.
D'accord.
Donc, j'ai été jeté en pâture dans le système traditionnel à partir du lycée. Et en fait, je m'en suis très très bien tiré parce que je m'intéressais à tout, mais je me disais pas particulièrement que les mathématiques ou la géométrie étaient supérieures au dessin et que finalement tout, pour être honnête homme, valait la peine d'être ingurgité.
C'est même étrange d'avoir voulu être enseignant quand on vient d'un système scolaire si différent, de vouloir ensuite rentrer dans un moule aussi corseté, parce que c'est ça aussi qu'on ressent quand on enseigne. C'est bizarre, non?
Oui, je ne suis pas resté longtemps. Et en fait, c'était le cursus normal, la
prof
pente naturelle. J'étais prof d'histoire chinoise, alors ce qui est un peu différent de la Grèce. Mais bon, quand on enseigne l'histoire, on s'intéresse à tout.
Forangeo aussi, hein.
Ah oui,
pas tant que ça, hein, ceci dit.
Il s'est dit que c'est à moi, donc il fait gaffe.
Ce que nous avons de plus oriental, finalement, dans notre civilisation, ça reste quand même les Grecs. Hein. Ouais. Il y a plein de ponts avec les philosophies orientales. Mais bon, en attendant, c'est sûr que j'avais envie de quitter un peu les sentiers battus et puis d'en faire qu'à ma tête.
Alors lui, il est encore professeur, Charles, mais dans quel lycée particulier enseigne-t-il ?
Un lycée de philo spécialisé dans la philo,
lycée technique ?
Non. On en a parlé puisque un film a été tourné dans
cet établissement.
Ouais, c'est un pensionnat.
Dans Oiseau.
Non.
Dans un... Ah,
oui, oui, tu l'as.
C'était
oui,
le
tu
truc.
Tu l'as, tu l'as.
Bonello, pas, Bonello, oui, zombie, oui, zombie, zombie, oui. Légion d'honneur.
Oui, exactement, joli. Joli. C'est ça,
ouais, c'est ça.
C'est très, en tout cas, c'est très beau. Hein. Ouais, je ne sais pas si l'enseignement.
Qui... Non, mais le film est assez fidèle. Hein. Ça se passe comme ça. Il y a un peu moins de zombies, mais il y a des jeunes filles. il y a quelque chose d'assez magique dans cet endroit.
Il n'y a que des jeunes filles.
Il n'y a que des jeunes filles, ouais, qui, dont les parents, pour une raison ou une autre, ont un peu servi la France, soit dans l'armée, soit dans la culture, dans l'entreprise, showbiz aussi.
Et est-ce que les élèves sont particulièrement attentifs, gentils, disciplinés?
Non, c'est des élèves assez normal au fond. Mais par contre, ce qui est
c'est la Légion d'honneur, c'est ça.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un internat, donc les filles, elles vivent là. Et du coup, les professeurs se connaissent vachement bien. Il y a des trucs un peu de transversalité pédagogique. C'est un peu un laboratoire intéressant, quoi.
Elles sont toutes amoureuses de Charles.
Est-ce que
pas toutes, malheureusement.
Pour en revenir à ce que disait.
C'est chaud comme sujet, ça.
Jules. Allez, donc voilà. On y va.
Ouais, ça reste des enfants.
Il y en a qui font des adultes.
Vous voyez les films dans Indiana Jones, il y a toutes ces élèves qui sont amoureuses de lui et puis qui écrivent son I love you sur leurs paupières, comme ça, puis elles ferment les yeux.
Pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur la rigidité de l'enseignement, on se dit pensionnat, jeune fille, Légion d'honneur. Non, très rock'n'roll tout
ça. Vous avez
vu
le film de Bonello quand même.
Oui, non, mais vous, oui. Non, mais d'accord, c'est pas un documentaire.
Ça fait des années que j'y suis, non, c'est pas du tout comme ça. Et c'est un lieu où on peut tenter des choses intéressantes pédagogiquement. Et d'ailleurs, pour moi, je suis le même quand je travaille avec le dessinateur Jules, ou quand je suis prof au lycée, ou quand j'écris des romans ou des essais. En fait, ce que j'aime, c'est l'espèce d'électricité qui fait que soudain, une idée passe. Qu'elle est visuelle, qu'elle est mise en image. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime bien bosser avec Jules, parce que, par exemple, là, je vois le dessin de Pégase. Quand je vois Pégase dessiné par Jules, en fait, j'ai des idées sur ce que c'est que l'imaginaire, sur ce que c'est que mettre des ailes un cheval.
Vous me répondez pas sur le bahut et sur l'enseignement.
Bah, si, c'est pareil. C'est quand je vois c'est un lieu où c'est possible d'inventer, où c'est possible, par exemple, contrairement à la plupart des lycées, c'est un lieu qui est très très respectueux des professeurs. Donc, si on veut tenter des choses, si on veut faire quelque chose d'un peu innovant, on nous autorise à le faire là-bas. Par exemple, ce que je fais souvent, pour prendre qu'un exemple, c'est que je suis en cours de philo, je parle de l'identité, et je veux montrer aux élèves que l'identité est un peu un leurre quand on croit que moi, je suis moi, c'est un peu un leurre parce que je suis changeant, je suis multiforme, et donc ce que je fais, c'est que je sors...
Un peu Barbapapa, quoi, c'est votre côté...
Exactement, comme Proté...
Il y avait une référence, c'était faite
voilà, également dans un peu Michou, on est tous en train de changer tout le temps, la question c'est qu'est-ce qui demeure de moi si je change tout le temps.
Ouais.
Et donc, pour leur montrer ça, je sors de la classe, je vais dans la classe du prof de maths qui est un pote, et je lui dis, parle-moi de l'identité. Quand tu écris dans une équation A égale 2, A est identique à 2, ça veut rien dire non plus, c'est une convention.
Là, il appelle la sécurité, il dit
c'est une valeur qu'on donne à une inconnue.
Exactement, donc ça veut dire que le terme qui veut dire identité, en fait, est un leurre, c'est juste une convention. Bah, c'est peut-être pareil pour moi. Quand je dis j'ai 46 ans, je m'appelle Charles Pépin, je suis humaniste, progressiste.
C'est une convention.
C'est presque aussi erroné, aussi illusoire que l'identité A égale 2. Et bah, des choses comme ça, on peut pas les faire dans les lycées habituels.
Mais surtout quand tu te fais contrôler dans la rue, quand on te demande tes papiers d'identité, tu fais le truc, ça marche pas.
Hein. Bah, c'est toujours une identité remarquable, non.
C'est un leurre, monsieur.
Sauf quand t'es un homme blanc, ça marche un peu mieux, je pense.
Un peu mieux, ouais. Charles Pépin, avec ses longs cheveux, là, comme ça romantique.
Ah, ça me fait penser à une très bonne chanson sur l'album de Philippe Catherine qui s'appelle Blond, où il dit je suis blond, c'est génial, j'ai jamais été contrôlé. On m'a jamais arrêté. S'il vous plaît, arrêtez-moi, demandez-moi mon identité. Je suis blond. Pourquoi Jules a-t-il été refusé d'une école, décidément, on est très école, le jour de la rentrée?
Parce que c'était pas la sienne?
Non.
Parce qu'il avait pas rempli les documents d'inscription?
Les vêtements, il était déguisé?
Non.
Il lui manquait quelque chose, il s'est pas présenté?
Si.
Il est venu en fille?
Non.
Il voulait pas entrer dans la classe qu'on lui a signée?
Non.
Refusé, donc.
Ouais, refusé. Pas... On dit ça va pas être possible, monsieur. Pourquoi?
Mais j'ai une bouteille à l'intérieur, je vous
assure. J'ai des potes. C'est pas une boîte de nuit, non. Refusé à l'entrée d'une école le jour de la rentrée, c'est chaud, non?
Ouais, c'était rasé le crâne.
Non.
Non, alors je dans l'apparence.
Il avait pas de sac, il avait pas d'éléments pour faire l'école.
C'était pas de sa faute.
Il avait
ses
pas
parents ont oublié de payer.
Si.
Quelqu'un a oublié de payer, non?
Non. Elle a vous séché.
Ah ouais, comment on peut se faire refuser à l'entrée d'une école? On peut lui dire, bah, c'est pas
arrive
grave.
Arrive en retard.
Non.
On avance.
Non.
Il est pas vacciné.
Pas le bonjour.
Non, c'est même pas le.
Parce que c'était un peu le bordel. Hein,
le côté, c'était. C'est pas aujourd'hui, revenez demain. Non, c'est juste, vous ne pourrez pas faire votre scolarité dans cette école.
Il habitait pas dans le bon quartier?
Si.
Il était majeur,
c'est un peu. Non. Ah, c'est ça. Hey, ils ont bien séché. Sur Booking.
Et ouais, sur Booking. Ils a, en fait, possible. Ils avaient merdé un petit peu les inscriptions et en fait, les classes étaient trop nombreuses. Donc, on m'a dit, vous allez aller dans le lycée d'à côté parce qu'il n'y a plus de place. Et c'est en fait, fou. Les premiers dossiers qui ont dégagé, c'était des dossiers atypiques. Je ne savais pas si j'étais bon élève ou pas, mais comme je n'avais pas de notes sur mon truc, j'arrivais.
Si, j'ai eu bleu l'année dernière. Enfin, bon, bref.
Voilà, il y avait des traces de café dessus. Donc, j'ai été viré de ce lycée où je devais faire arabe, troisième langue. Et je suis allé dans un lycée où il y avait le choix entre chinois, hébreu ou italien. J'ai fait chinois, ça a pas mal déterminé les années qui ont suivi, parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant des années, par hasard.
Ça joue à pas grand-chose.
Hein. Voilà.
Joue à pas grand-chose. Un terme de gestion d'entreprise qui révolte, il n'y a pas d'autre terme, Charles.
Bankable.
Non. Non, alors c'est un terme de... C'est un poste dans une entreprise.
RH.
Exactement. Tom a réagi avant toi. Les ressources humaines, ça, c'est vous supportez pas cette expression.
Pourquoi vous dites ça?
Bah parce que vous l'avez dit.
Non, bah disons que
sur France Info, vous l'avez dit. Je trouve le terme ressources humaines scandaleux. Il y a quelque chose de scandaleux dans le fait de penser que l'humain n'est qu'une ressource.
Oui, bon, ça, je partage cette idée. Mais
avec vous-même.
Aujourd'hui, avec le recul,
la personne qu'il était à l'époque où il l'avait.
Je suis d'accord avec moi.
C'est pas mal. Voilà.
Mais en même temps, aujourd'hui, il y a un truc qui me révolte beaucoup plus comme mot, et c'est le mot que j'entends le plus dans les entreprises où j'interviens beaucoup pour faire des conférences. Et je vous pose la question, est-ce que vous savez quel est le mot qu'on entend le plus, largement devant travail, motivation, argent, salaire?
Rentabilité.
Non.
Bien-être.
Non, c'est un mot qui dit tout de l'époque, c'est le mot process. Ah. Voilà, la soumission au process, la fluidité des process. Donc c'est le mot qu'on entend le plus. Ça veut dire qu'au fond, au lieu de laisser la créativité...
C'est quoi? C'est de l'efficacité, si on devait traduire.
Ça veut dire que les gens doivent faire les choses telles qu'il est prévu de les faire.
Le chemin,
et non pas faire un pas de côté, non pas décider, non pas hésiter, non pas innover, juste se soumettre au process.
Oui, mais c'est une quête de l'efficacité, toujours.
Ça se justifie d'abord par la quête de l'efficacité, mais ça a pour effet pervers d'empêcher les talents de se révéler.
Non mais Charles, imaginez si le côté... Faisons un pas de côté. Vous faites ça dans n'importe quelle boîte. Enfin, vous faites ça systématiquement dans n'importe quelle boîte. Vous n'avez plus aucun cube qui soit carré par chaque face.
Avec vous.
Juste, il y a un mec qui devait faire l'une des faces du cube. Il a dit, non, ben moi, je ne vais pas la faire comme ça.
Oui, mais je suis quand même d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce que c'est le premier mot? Il devrait arriver après d'autres mots. Après motivation, après désir, après envie.
Non, j'en sais rien. Je dis juste qu'il y a un moment quand on sait, et c'est valable dans l'artisanat comme dans l'industrie, quand on sait comment bien réaliser un meuble d'ébénisterie, il n'y a pas 36 000 possibilités. Je pense que n'importe quel artisan va transmettre à son apprenti l'art de faire le bon mouvement, le bon geste.
Vous savez, Nagy, ce que disait Aristote, exactement à ce sujet.
Non, je n'y étais pas. Il a dit quoi?
Il disait, qu'est-ce qui distingue un artisan excellent d'un artisan génial? Et il disait, c'est le plaisir que l'artisan génial prend à ce qu'il fait parfaitement. Donc le process, oui, mais le process sans le plaisir, voilà.
Mais ça, on est d'accord. Mais c'est valable pour tous les métiers.
Ouais.
C'est-à-dire que je pense que dès l'instant où on aborde un métier avec passion et avec plaisir, d'abord, on n'a plus jamais le sentiment de travailler, au sens torture, tripalium du terme.
Ça, c'est quand on a la chance de faire un métier sympa. Parce que quand on est à la caisse d'un supermarché, je pense que même si on fait du plaisir...
Mais je pense que même quand c'est un métier sympa, si on parle toute la journée du process, ça vous enlève le plaisir, justement.
Ouais.
En tout cas, je trouve ça admirable que Nagy essaye d'avoir le dernier mot avec vous.
Ouais, non, mais j'ai des doutes. Je suis d'accord sur le terme un tout petit peu carcéral de ce côté-là.
Après, un peu rugueux, un peu râpeux.
Ouais, c'est ça. Mais ensuite, je pense que la force de la transmission entre ceux qui savent et ceux qui apprennent un métier, c'est justement de bien expliquer quels sont les chemins par lesquels passer pour aider. Et pas, je parle pas dans un souci de performance, de rentabilité et autres. Simplement, il n'y a pas 36 façons. Le vélo, à un moment donné, la roue, elle doit être ronde. Si vous dites au gars, non, mais moi,
je vais le noter. Ça mais,
la roue, c'est du vélo.
C'est discutable. Parce qu'en fait, le savoir-faire, si on vous écoute, on va penser que c'est le savoir-faire qui est la clé du succès. Et pour moi, la véritable confiance, c'est quand on ne se contente pas de savoir-faire ce qu'on sait faire, mais qu'on ose faire ce qu'on ne sait pas faire, justement. Donc j'ai l'impression que c'est très dangereux, cette valorisation du savoir-faire et du process, parce que ça met de côté l'essentiel. L'essentiel, c'est l'improvisation.
Le savoir-faire, c'est simplement la reconnaissance que l'on peut avoir pour quelqu'un qui a une expérience aussi, ou une expertise de ce qu'il fait. Vous prenez un artiste, vous prenez un musicien, un bon guitariste soliste dans un groupe, il a un savoir-faire.
Bien sûr.
On ne peut pas lui retirer
ça. Non, on va faire un truc pour le volume 3 de 50 nuances de Greg. Vous allez inverser les rôles. Charles, vous allez dessiner.
Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, il est évident que sur le domaine artistique, on cherche l'originalité. À côté de ça, si vous avez un soliste qui part dans une gamme qui est totalement différente du morceau, il a beau être original, il va se faire jeter par par le chef d'orchestre, non ?
Là, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que, en fait, cette apologie de la répétition doit être entendue comme ce qui permet de créer l'événement de la sortie de la répétition. Mmh. Et même un soliste, même quelqu'un qui fait ses gammes et tout, pourquoi il y répète ? Pourquoi il a ce savoir-faire ? Pour justement avoir assez confiance pour s'en libérer et faire autre chose. Et c'est pour ça que je reviens à votre première question. C'est assez lamentable que le mot qu'on entend le plus soit le mot process, parce que ça nie, au fond, ça nie toute cette idée de la liberté, de l'inventivité et, au fond, de l'improvisation. Je pense que la vraie vie, c'est d'improviser.
T'as raison, je fais
raison. On a jusqu'à midi et demi. Hein,
rien peut vous faire changer d'avis.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est juste que votre question, c'était le mot qui vous...
C'était ressources humaines, moi, que j'avais. C'était pas process. C'est vous qui êtes parti sur le process.
Moi, ressources humaines, j'ai un peu changé d'avis. En
fait. Donc, ça vous arrive de changer d'avis. Charles Pépin et Jules co-signent 50 nuances de grec. D'un côté, la planche, le dessin, la vanne, l'humour et l'actualité rapprochés de la mythologie grecque. Et de l'autre, l'analyse philosophique.
En tout cas, ce qu'il y avait de drôle et de presque attendrissant, c'est de voir Charles Pépin qui est en train d'expliquer, de revenir sur le concept, d'essayer de convaincre Nagui, et de voir Jules qui regarde son camarade avec admiration et presque tendresse et amour. Vous êtes, on a l'impression que vous êtes fan l'un de l'autre.
Alors que moi, de mon côté,
je n'avais aucun soutien de ma bande. Rien.
Non, j'ai le projecteur dans les yeux.
C'est
ça,
ça
va
savoir. Ça tombe bien.
Tu sais que je te regarde avec envie toujours.
Mais pas pour les mêmes raisons.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est pour le physique. Tom Villa va poser les questions et donner les réponses en même temps. Tom,
messieurs, très heureux de vous recevoir ici. Charles Pépin, philosophe, Jules, dessinateur. Jules, à ne surtout pas confondre avec le rappeur...
Le rappeur Black M.
Non, le rappeur Jules. Parce que celui qui vous confond avec Black M, soit il est aveugle, soit il est con. Hein.
Mais là, ça dérape.
Pardon, je m'excuse. Alors Jules, j'espère que ça va, vous êtes en forme ?
C'est une question qui n'a pas lieu d'être.
Bah si, un petit peu. Je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de savoir comment vont vraiment les gens. Par exemple, moi, ça va très bien en ce moment.
Ça ne m'intéresse même pas.
Bon, bah, très bien. Et tiens, je me demandais, Jules et Charles, comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
Pour le tournage d'un film porno.
On va passer à la promo. Alors Jules, vous sortez de donc votre le deuxième opus de 50 nuances de grec avec au texte votre fidèle compère Charles Pépin, et force est de constater qu'avec des sujets comme les philosophes, les mythes de l'Antiquité, on sent que vous avez choisi de faire une BD pour
les filles toutes nues.
Non, pour la culture, hein, on sent que vous aviez envie d'apprendre des choses aux lecteurs, non ?
Je suis fan de Schopenhauer.
Oui, bien sûr, essayez de vous rattraper. Alors, en plus de toutes les BD que j'ai citées, il y a bien sûr Silex and the City, hein, vous bossez quand même énormément. À quel moment, Jules, vous pensez qu'il faut lever le pied ?
Quand on fait parler son canto F.
Ah bah voilà, ça c'est une très bonne limite, effectivement, pour les gens qui bossent beaucoup. Hein, Nagui ? Et Jules, vous êtes beaucoup... vous êtes à la base dessinateur de presse.
Et... J'ai évidemment un œil extrêmement critique et virulent sur plein de sujets.
Ah cool, alors super, alors très bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire, je sais pas, sur Donald Trump ?
Tiens. Il a pris une taille de ceinture.
Ouais, c'est pour le truc le plus virulent que j'ai entendu. Et sur Nagui ?
Le grand proxénète du nord de la vallée.
Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, dire qu'il est...
Nazi, pédophile.
Oui, voilà. Non, vous êtes fous, ça c'est pas vrai. Non, mais vous devez, par contre, vous devez bien connaître une ou deux vérités.
Il doit payer des pensions alimentaires aux 246 enfants qu'il a fait sous différents avatars.
Non, là c'est faux aussi, c'est 248 le vrai chiffre. Moi ça m'impressionne, surtout que j'ai pas d'enfants.
Le jeune puceau...
Ah ouais, alors ça y est, Charles se réveille à la fin de la chronique. Voilà, c'est juste que je veux pas d'enfants, parce que vous savez pourquoi d'ailleurs ?
Le spectacle de fin d'année est toujours nul.
Exactement, et c'est uniquement pour cette raison. Et Charles Pépin, une petite question philosophique pour terminer.
Cette émission, par exemple, tout de suite là,
oui.
Est-ce que je voudrais vivre cet instant pour l'éternité ?
Eh ben, vous savez quoi ? Vous avez 2 heures, même si j'ai une petite idée sur la réponse. Bonne émission.
Merci, Tamina.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Et on se retrouve à Marseille, Tom, 21, 22, 23 novembre, Marseille, c'est le spectacle de Tom Villa.
Vendredi, qui arrive ce vendredi 15 novembre, sortira donc le tome 2 de 50 nuances de grec. Il y aura une séance de dédicace d'ailleurs organisée à 18h30 à la librairie de Paris, ça se trouve place de Clichy. On apprend des choses, par exemple des expressions, vous tordez le cou à Morphée, enfin du moins une expression
rétabli,
autour de Morphée, où on a l'impression en effet que être dans les bras de Morphée, ça peut vouloir dire
dormir et
bien
dormir. Mais ça me fait cette question, parce que je crois que vous donnez la voix à Hypnos. Et justement, juste dans son dessin, il a confondu Hypnos et Morphée. En fait, il fait un dessin assez drôle, où il y a une nana qui s'emmerde au pieu avec un mec, et c'est Morphée. Et donc, elle dit à sa copine le lendemain au petit-déj, voilà, c'est pas hyper cool de passer la nuit dans les bras de Morphée. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en travaillant un petit peu, c'est que, en vérité, Morphée, c'est un des 1000 enfants de Hypnos, et Hypnos, c'est le dieu du sommeil. Donc, c'est juste le mec qui nous endort. Alors que Morphée, c'est le dieu qui donne toutes les formes aux images de nos rêves, c'est le dieu multiforme, protéiforme.
Oui, le morph qui a donné morphing, morphologie.
Ouais. Et ce qui est très, au fond, lorsque Freud nous dit qu'il faut interpréter les images des rêves en pensant qu'elles se condensent, qu'elles se réinventent, qu'elles se déplacent, en fait, c'était déjà chez Homère, à travers ce personnage de Morphée, qui sait prendre toutes les formes de nos alors, fantasmes,
ils sont,
de nos
ils désirs. Ils sont deux à prendre toutes les formes, hein. Il n'y a pas que...
Il y a aussi Morphée, ouais. Il y a Protée. Il y a donné protéiforme. Et Protée, c'est carrément fabuleux, parce que ça veut dire que c'est la matière même du monde sous toutes ses formes possibles. Ce qui veut dire que on a la possibilité d'avoir une sorte de version cosmique de tout ce qui est vivant et qui peut, dans un chatoiement incessant de formes, en fait, prendre toutes les formes. Et quand on rêve, bah, ce qui est assez marrant, c'est que donc grâce à Hypnos, on s'endort, et puis grâce à Morphée, bah, par exemple, on va rêver que sa copine nous fait du mal, mais en fait, on veut pas se l'admettre, donc Morphée va donner à sa copine le visage de sa mère. Et c'est pour ça que ça s'appelle un déplacement au sens de Freud. Et ben tout ça est déjà chez Homère. Et tout ça est déjà dans le dessin de Jules, malgré cette petite confusion entre Hypnos et Morphée.
C'est bien, comme ça, il vous tape sur le bout des doigts après
c'est
votre
ça,
dessin.
C'est ça, c'est notre petit dialogue quotidien.
Petite vie de couple.
Non, c'est pas ça. C'est que surtout, on voit que d'un côté, il y a ce que la mémoire collective a en imagerie, parce que l'expression s'endormir dans les bras de Morphée, là, c'est pas Jules qui l'a inventé cette phrase. Donc vous rectifiez le tir, vous corrigez avec la réalité. C'est donc Hypnos qui est le dieu du
sommeil. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils bossent ensemble. Parce qu'en vérité, quand on s'endort, donc grâce à Hypnos, et qu'après on se met à rêver, en fait, quand on rêve,
on se rapproche
de sa vérité inconsciente, de sa vérité refoulée, des échecs de ses journées. Et donc, au fond, quand on s'endort, en fait, on s'éveille à soi-même. Donc, grâce à Hypnos, on s'endort, et grâce à Morphée, on s'éveille à sa vérité cachée.
Et grâce à Marina, on se marre. Alors, voici Marina Rollman. Très joli chignon.
Les amis, pardon ?
Non, il est joli ton chignon.
Merci. La semaine dernière, Instagram annonçait poursuivre une démarche entamée il y a quelques mois qui consisterait à progressivement cacher le nombre de likes sous les publications de certains utilisateurs.
Pourquoi ?
Et ça m'a permis de me poser la question sur mon rapport à tous ces likes, toute cette affection qui flotte comme ça dans le cloud. Voilà, exactement. Et moi, je dois dire que j'ai développé une certaine amertume pour les réseaux sociaux depuis quelques mois, notamment parce qu'on a proposé à mon chien de devenir influenceur. Vous avez bien entendu, mon chien, Otavio. Otavio De Carlo Armleder, antiquaire à Milan le jour, teckel de combat la nuit. Otavio, donc, oui, on a une backstory, je vous expliquerai.
Il s'appelle Otavio, ton chien ?
Oui, il s'appelle Otavio. C'est une petite saucisse, il est merveilleux. Et donc, Otavio,
j'en atteste,
s'est vraiment vu proposer une opportunité de travail en tant qu'influenceur. Il y a une boîte dont c'est le métier, qui s'appelle genre « Bientôt votre chien va pouvoir se permettre la cocaïne ». Et dans cette boîte, il y a des gens tous les jours qui vont au bureau en se disant « Bon, faut y aller, il faut recruter des animaux de compagnie pour vendre des trucs à des propriétaires d'autres animaux de compagnie. Ça tourne pas tout seul le capitalisme, va falloir se sortir les doigts les gars ». Et donc ils cherchent toute la journée des animaux potentiellement en star et ils les contactent. Et donc ils m'ont contacté en me disant « Oui, on a repéré Otavio, on aimerait bien le faire influencer des gens, quoi que ce soit la signification de ça ». Et j'ai envie de leur dire, mais niquez-vous, mais déjà.
Mais ça va pas,
mais
non.
Déjà,
mais Marina,
non,
mais perdu le contrat, là. Ton micro est ouvert.
Je vais argumenter. J'ai pas un niquez-vous gratuit, c'est un niquez-vous, voilà. Déjà, les mecs sont dingues. Otavio est mineur, voilà. On sait très bien à quel point c'est quasiment impossible de gérer la célébrité à cet âge-là. Pour une Nathalie Portman, combien de Lindsay Lohan, combien de Screech dans Sauvé par le Gong, combien de Corey Feldman, de Jordi, de gens qui se sont brûlés les ailes au soleil du show business et qui finissent tous botox à 26 ans avec un emploi fictif de DJ à Courchevel. Donc déjà, ça c'est non, c'est sûr. Otavio, il a un foyer équilibré, des parents qu'il aime et il fera donc médecine comme n'importe qui de sensé. Et ensuite, qu'est-ce que c'est influenceur chien ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu pars en vacances, il monte son boule. Qu'est-ce qu'il va le faire à Otavio, bordel ?
Il conseille des croquettes, je sais pas.
Ouais, j'imagine, je l'imaginais, moi pire, poster des photos de lui au Ritz devant un petit déjeuner au lit à peine entamé, avec le peignoir qui glisse élégamment, qu'il a subtilement entrevoir un début de décolleté et en dessous un hashtag genre Simple Pleasures.
Arrête, tu t'excites.
Le
tu t'excites
morning,
toute seule.
Oui,
arrête,
voilà, c'est arrête, ça. Arrête, arrête. Mais surtout, surtout, c'est hors de question que mon chien devienne influenceur. Et j'ai même pas répondu à ce message, à vrai dire, parce qu'en vrai, j'étais tellement vexée qu'on lui propose avant moi. J'ai un métier public, j'ai des réseaux sociaux, j'ai une attachée de presse, et c'est mon chien qui devient influenceur. Je ne sais plus quoi faire pour plaire. Je veux dire, je suis bipède, j'ai fait un spectacle, j'ai des pouces, vraiment, et pour ça, rien ne fonctionne pas. Ça vaut pas le fait d'être né chien mignon, c'est dingue. Au cas où des gens veulent me sponsoriser, si jamais j'ai besoin d'un nouveau portable, de baskets et de fleurs. Voilà, je veux bien devenir une égérie de fleuriste. C'est sympa, j'en demande pas
oui,
beaucoup
ça, c'est
en
bien,
plus.
Fleuriste.
Tout ça pour dire, même si j'ai pas l'aura de mon chien, je passe quand même beaucoup de mon temps à interagir sur les réseaux sociaux, et je suis en train de me demander si on se donne pas un peu trop d'amour, justement, sur Internet. Ça semble devenir un petit peu compliqué quand même d'avoir une interaction à moins de 8 cœur, il me semble. Et pourtant, le monde ne va pas mieux, globalement. Je sais que j'en parle souvent ici, mais on a quand même à nouveau des nazis. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a aux États-Unis. Alors, généralement, ils disent « Non, non, on n'est pas nazis, on est néo-nazis. » Certes, ça sonne... Ça sonne un peu plus cool. C'est vrai que c'est un peu plus dynamique. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est en néoprène, ton uniforme, clown, j'adore, c'est moderne, etc., néo-nazi. Mais tout ce dit, c'est quand même des nazis. Et moi, je croyais qu'on avait dit, on n'en faisait plus. Tu vois, les nazis, c'était un peu comme les jupes culottes, quoi. On s'était dit, bon, ça, a priori, pas deux
on
fois.
Arrête.
Voilà, never forget. Et en fait, pas du tout. Gros comeback. Du coup, quitte à revenir, j'espère qu'ils reviennent en jupes culottes. Et je me suis dit, mais t'imagines si les nazis, ils reviennent, en fait, ils ramènent tout du passé, mais en vrac. Les nazis, ils reviennent avec le scorbut, FL65, le RPR. C'est très bizarre, mais il y a une ambiance, quoi. Il n'empêche donc qu'on se donne de l'amour sur Internet tout le temps, constamment. On se like, on se donne des cœurs dans tous les sens. Et je sais pas si au contraire ça nous fragilise pas un peu, effectivement. Qu'à chaque fois que tu fasses un pas dans le monde virtuel, boum, un cœur. Tiens, à la moindre, regardez une photo de mes vacances, je t'aime. Oui, bon, bah, d'accord. Hier soir, j'ai essayé de faire une bouillabaisse maison, je t'aime. Enfin, il y a un truc un peu hystérique. Et parfois, on t'envoie un cœur en message sur Instagram. Et tu peux liker les messages sur Instagram. Mmh. Tu peux donc liker des cœurs.
Mettre un cœur sur un cœur, wow.
Tu peux aimer l'amour. Même Patrick Fiori, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas osé aller aussi loin. Tu vois. Les réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment une balance précaire, quoi. C'est soit on s'insulte pour rien, soit c'est l'extrême inverse. On dirait un tas de gens bourrés au sortir d'une boîte de nuit qui sont là, j'aime ton cœur. Non, moi j'aime d'amour l'amour que tu me donnes. Non, moi je te cœur le cœur, je peux te sentir les cheveux. Wow. En plus, avec des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, tu vois. Alors oui, certes, c'est un peu beaucoup entre les cœurs, les likes, les chiens mignons. Je suis pas sûre que ce soit l'environnement le plus sain du monde pour pas devenir des junkies à dopamine, mais au fond, est-ce que c'est pas toujours mieux que les nazis ici, peut-être?
Ouais, quand même.
Merci, Maïla. France Inter, Nagui, la bande originale.
D'ailleurs, vous l'évoquez, Charles Pépin et Jules, dans 50 nuances de,
néo-nazis,
de oui, grec, ouais, le côté. Non, c'est vrai.
L'éternel
oui, c'est,
recommencement.
Si, l'éternel recommencement et les erreurs commises dans le passé, est-ce qu'elles peuvent se reproduire ou pas, renaître
ouais,
ou pas?
Bah, c'est parce que, en fait, nous, on est dans une culture avec une origine comme ça, judéo-chrétienne, où on a l'idée d'une progressivité. On a l'idée qu'il y a un début et une fin, donc on pourrait progresser, c'est la vision progressiste, et on pourrait aussi corriger ses erreurs, tirer
et
ses,
pas les
vertus de ses ratages ouais, du passé et progresser. Mais dans l'esprit tragique, c'est pas ça. Il y a plutôt un éternel retour du même, et il y a plutôt un destin qui s'abat sur nous, qui fait que même si on fait des efforts pour tirer des leçons du passé, on se fait toujours niquer par le destin. Et ça, c'est très intéressant pour nous d'aller un peu découvrir cet esprit tragique, parce que ça nous permet de sortir un peu de cette espèce de bien-pensance, d'optimisme, qui fait qu'on veut toujours, comme ça, tirer le positif de ce qui nous arrive. Mais au fond, pour un grec, hein, Héraclite, notamment, on disait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et il y a cette idée aussi que peut-être tout revient toujours.
Déjà parce que c'est pas la même eau.
Et que du coup, peut-être notre force, eh bien, c'est pas d'en tirer des leçons pour progresser, mais c'est de savoir accepter ce qu'on ne pourra pas changer. Ce qui est aussi un enseignement stoïcien, hein. C'est l'essentiel, c'est pas de changer les choses, tu peux pas les changer, mais c'est de changer la manière dont tu les reçois, de changer ton affect.
Ce qui est terrible pour les toisons jaunes, parce que vous dites que l'espoir, c'est un peu la marque des faibles.
Ouais, vous avez, exactement. Et c'est surtout, assez marrant dans le dessin de Jules avec les toisons jaunes, c'est que ça a créé une sorte de flash dans ma tête. Je me suis dit, en effet, quoi, la question sociale, est incompatible avec l'esprit grec tragique. En fait, pour un grec tragique, il n'y a pas à améliorer les choses, il n'y a pas d'espoir d'amélioration, il n'y a pas non plus de sentiment d'injustice. Ça, c'est une idée chrétienne. C'est... En fait, pour eux, le réel, c'est le réel. Il est juste le réel. Il n'a pas de raison d'être juste. C'est juste le réel. Donc, c'est quoi la force d'âme? C'est de savoir dire oui. Oui à ce qui est, avec courage, avec fermeté. Donc, voilà, il ne peut pas y avoir de gilet jaune chez Homer, quoi.
Charles Pépin et Jules sont nos invités, 50 nuances de grec, c'est publié chez Dargo à partir de ce vendredi. La bande originale de Jules et Charles Pépin, on va commencer dans les années 70. Charles Pépin, vous écoutiez. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. David Bowie.
Eh oui, j'étais...
J'étais quoi ?
Dans le ventre de ma mère. Mais c'est vraiment
hallucinant. Pourquoi parce que cette musique-là correspondait
à cette musique-là, la première fois que j'ai entendu, vers 15-16 ans, ça a été vraiment... Dieu est arrivé sur Terre, c'était le flash métaphysique. J'avais l'impression que quelqu'un me parlait, me comprenait, disait la vérité du monde et tout. Et je ne savais pas qu'en fait, c'était l'année de ma naissance. Et à chaque fois, je pense que j'ai attendu 10-15 ans de plus en écoutant, je pense que c'est ma chanson préférée. Et donc ça m'a fait un petit choc quand j'ai découvert que c'était effectivement l'année de ma naissance en gros. Donc peut-être, je l'ai entendu dans le ventre.
Et qu'un philosophe ait comme chanson préférée Rock'n'Roll Suicide.
Ouais, enfin, ce que raconte Bowie, c'est pas non plus l'apologie du suicide. Hein. C'est plutôt.
Non, j'ai pas dit ça. Enfin, c'est
ouais, de toute façon, moi, je pense que
le rapprochement des deux est fort.
Pour aimer la vie, il faut comprendre aussi ce qu'elle a de dur. Je supporte pas l'obsession de positiver. Je pense que la vraie joie, c'est la joie tragique dont parlait Nietzsche. Donc,
on aime la vie parce qu'on a peur de la mort.
On aime la vie en étant lucide sur la difficulté d'être. On n'a pas besoin de se mentir et de s'illusionner pour aimer vraiment la vie. Voilà, donc c'est pas incompatible.
Et dans ces premières années, il y a une découverte aussi, un flash métaphysique, j'ai envie de dire. Ouais. C'est l'écrit, le passage à l'écrit, à l'écriture, le pouvoir des mots, la capacité sans doute à réenchanter ou en tout cas à transporter ailleurs.
Ouais, je me souviens
très tôt,
ça. Très tôt, j'ai eu un autre choc avec une figure, un autre philosophe que j'aime bien après Bowie, c'est Zatopek, le coureur de fond. Et en fait, je crois que j'avais 12 ans et une prof de français m'a donné la chance d'écrire, elle me dit mets-toi dans la peau de Zatopek, parce que j'adorais ça, je voulais faire du cross.
Ouais.
Et après, je suis parti, j'ai écrit, je crois, 15 pages de suite, le monologue intérieur de Zatopek. Et c'est là que je me suis dit, je veux être écrivain.
Et même confondé, parce que ça c'est de l'écriture à la limite d'invention, où on entre dans la tête de quelqu'un éventuellement, quand on a des élèves face à nous, ils préfèrent faire l'écriture d'invention que de se livrer à la dissertation. Ouais. Mais vous, même la dissertation, tout d'un coup,
oui, j'aime bien ça,
écrire, se coller tout d'un coup à une problématique, se dire je vais m'exprimer, ça c'est le bonheur.
J'aime bien ce passage à l'acte, exactement. Ce passage à l'acte, j'ai eu aussi une rencontre très belle avec un prof de philo en terminale qui s'appelait Bernard Clerté. Et je me souviens qu'il m'a dit, mais en fait, ce qui compte, c'est ce que tu vas vivre pendant 4 heures. T'as une page, t'as un sujet sur la liberté, le désir. Mm-hmm. C'est l'occasion d'une expérience existentielle très forte. Ouais.
Dans ces mêmes années, vous écoutiez, quant à vous, Jules, Alan Parsons Project. L'œil dans le ciel. Là, Eye in the Sky, vous renvoie à quelles images ou quelle période de votre vie ?
En dehors du plaisir de cette musique, je pense que juste la notion d'œil dans le ciel et justement de destin, de quelqu'un qui nous regarde et le côté un peu mektoub, tout est écrit, c'est quelque chose moi qui m'anime pas mal. Et en fait, je pense qu'il y a, j'ai une forme de fatalisme. Je pense que les
tout
gens
tout est écrit, même si on peut le changer.
Même si on peut le changer, bien sûr, on a une marge de progression. Mais en fait, le fatalisme, c'est une marque de fabrique de bien des humoristes en fait. En général, moi, les gens que j'admire, c'est-à-dire Goscinny, Franquin, Gottlieb, parmi les dessinateurs, moi, qui m'ont nourri hein, en tant que lecteur, étant enfant et encore aujourd'hui, c'est des gens qui ont un fond tragique, qui ont une espèce de déprime fondamentale,
ils s'en tirent avec la
vanne. Transformés à travers leur blagues. Les gens les plus drôles sont souvent les plus tragiques. Et cette dimension-là, elle existe dans cette chanson. Il y a à la fois cette douceur du fatalisme et voilà. Et ce refus d'être entièrement enfermé là-dedans.
74, un an après donc naissance de Jules, après celle de Charles Pépin, fils de prof dans le système classique, des parents un peu 68-ards, c'est en tout cas comme ça que vous les décrivez, un peu anti-système, ce qui explique de Crowley, j'imagine, tout d'un coup le passage.
Voilà, cette école alternative,
où on découvre très tôt le mot croque-mort, parce que cette école, c'est marrant, c'est d'apprendre ce mot-là tout petit, en fait.
Oui, parce qu'en fait, moi j'ai eu une enfance très politisée, c'est-à-dire que j'ai même chanté à la fête de l'UMA, et ça m'a marqué, et encore aujourd'hui, même quand on fait des blagues comme ça autour de la mythologie, je peux pas m'empêcher de le relier à l'actualité. Bien sûr, j'ai un pédigré de dessinateur de presse, mais ça a été déjà nourri au biberon de tout ça. Et quand j'avais 3-4 ans, et on faisait des manifestations dans notre école qui devaient être fermées par la mairie de Paris, plus ou moins, parce que ça se trouvait dans le bois de Vincennes, et c'était le maire de Paris, c'était Chirac. Et en fait, on allait manifester, j'allais m'enchaîner à l'âge de 4 ans devant le ministère, en criant « Chirac, croque-mort, De Crowley n'est pas mort ». Et en fait, j'ai appris le même jour le mot « croque-mort » et le mot « Chirac ». Ça m'a accompagné, et tout m'est revenu récemment à la mort de Jacques Chirac. Et justement, je me suis dit « mais c'est ça ». Dont on a été nourri, cet humus-là. Et en fin de compte, je pense que ce qu'on oublie un peu, c'est ça, c'est le côté, aujourd'hui sous des nappes de, j'aime pas trop utiliser le mot politiquement correct, mais je dirais de conformisme un petit peu, à la fois avec des nouvelles technologies de réseaux sociaux justement, et cette conformité au big data, à la pensée préformatée, au goût préformaté qu'on nous donne, il y a quand même dans notre société française, d'où qu'on vienne, et moi c'est ce qui me fait un peu peur aujourd'hui dans les grands débats et qui déchirent notre société, c'est cette chose en commun qui est le goût justement du pas de côté, de la contestation, un peu du refus de la hiérarchie et du conformisme. Oui. Moi, je crois qu'on l'a tous en commun, ça. Et en fait, dans le dessin d'humour, et quand on fait des bandes dessinées comme ça, on essaie de maintenir cet esprit-là, cette flamme-là, qui a parfois tendance à vaciller. Et je pense que c'est important de tenir bon.
Je veux juste qu'on réécoute un tout petit peu Alan Parsons avec ce titre Eye in the Sky, pour rappeler que ce monsieur a été ingénieur du son au studio d'Abbey Road, c'est-à-dire qu'il a juste mixé les Beatles et fait les prises de son des Beatles, et qu'il a aussi travaillé sur la production de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'est pas n'importe qui dans le monde de la musique, quoi. C'est pas juste un tube comme ça des années 70, c'était un pur bonhomme de la production et de la musique, et surtout d'albums rock and roll qui ont marqué l'histoire de la musique. Dans les années 90, Charles Pépin, vous écoutiez... Les petits-enfants des Beatles, Blur, Damon Albarn, ton pote.
Ouais.
Et ce titre Country House qui fait référence.
Il y a un problème.
Non, alors pour la petite anecdote, c'est entre elle et moi.
Ouais.
C'est-à-dire que le jour où elle a accepté de venir participer à cette bande originale, on avait du mal à se joindre. Pourquoi ? Parce qu'elle était au concert de Damon Albarn.
Ben voilà.
À Salle Pleyel.
Salle Pleyel, ouais. Voilà. Et donc, ça sera à vie, Damon Albarn et Blur sera lié à...
C'est notre bande originale à nous.
À notre histoire. Blur, ce titre Country House correspond à quel moment ?
Aussi Girls and Boys.
Ouais.
Bah, ça correspond à des moments de sortie de boîte où je prends la voiture pour aller à la campagne.
Complètement
en écoutant Country.
Bah, c'est le moment où on envoie les cœurs aussi.
C'est aussi un moment de changement de vie parce que
j'étais mon frère.
J'étais à l'époque à HEC, quoi.
Ouais.
Et c'était le moment où j'ai décidé de devenir prof de philo et romancier, donc de quitter un peu ce premier monde. Et je me souviens que Blur, Pulp, Oasis m'ont pas mal accompagné dans ce choix. Voilà.
Ouais, c'est ça. Vous étiez HEC, vous vous projetiez dans quoi tout d'un coup? Si vous n'aviez pas entamé ce virage, vous seriez devenu quoi avec cette
dans
identité mouvante?
Dans quel process?
Ouais, voilà.
Bah, je me projetais pas, en fait. C'est peut-être pour ça. En fait, j'adorais la philosophie et la littérature. Donc, je m'étais un peu égaré là-bas. Et j'étais... je me souviens d'un moment très fort. Le Palace existait encore. Et je me souviens qu'à la fin, il passait parfois ça. Et après, je le mettais dans ma voiture. C'était vraiment des bons moments. Et c'est des moments où on pense qu'on... On se retrouve, quoi, et on devient la personne qu'on a envie d'être.
Ouais, ouais, parce que vous auriez pu, avec HEC, j'imagine, gagner beaucoup d'argent, accéder à un poste de responsabilité dans une grosse
entreprise.
Ouais, c'est
plus que plus, c'est qu'on m'avait proposé un poste à la Société Générale aux études économiques, et j'ai vu la banque, vers Opéra, je crois, et j'ai vu l'endroit où il fallait badger. Et j'ai dit non. Je badgerai pas.
Et vous avez publié votre premier roman.
Vous parlez des banques devant les grands magasins du boulevard Haussmann, c'est ça?
Ouais, je crois que c'était là.
C'est des sublimes immeubles, on a l'impression d'être à Gotham City. On a l'impression d'être à Gotham City, quoi.
J'ai une impression plutôt désagréable. Et d'ailleurs, j'y suis jamais allé, au fond. J'ai pas commencé ce premier poste. Et d'ailleurs, des années après, je suis toujours aussi borné. Quand je vais faire une conférence, et je refuse de donner ma pièce d'identité et d'avoir le badge en échange, j'ai des petits points de fixation comme ça où je me sens exister.
C'est vrai que vous rajoutez, vous savez très bien qui je suis.
Non, c'était pas de l'arrogance, c'était juste un petit peu.
Façon, entre le moment où je badge et je donne ma conférence, je ne serai pas le même. Ça ne sert à rien que je vous donne
mon identité.
Bravo, Daniel.
Anne n'est pas égale à deux voilà. Au début et à la fin.
Ouais, voilà.
Vous écoutiez dans les années fin des années 90, quant à vous, Jules Albano et Romina Power.
Enfin, de la vraie musique dans cette émission.
Donc, n'insulte pas Blur ni Alan Parsons.
J'aime tout.
Felicità. C'est la chanson italienne qui vous plaît ou c'est cette
moi
chanson?
Moi j'adore ça. C'est toujours. De toute façon, moi, c'est l'équilibre que j'ai aussi dans mon travail. C'est la mélancolie et la gaieté. Il est poli d'être gay. Et tout ça.
c'est vraiment véhiculé dans ce genre de musique un petit peu
pseudo légère
ouais. Mais voilà, et puis ça correspond, les années 90 c'est les années d'insouciance, une espèce d'âge d'or justement où je commence à publier mes albums de bande dessinée, je publie des dessins dans les journaux, je vois à peu près dans quelle direction je vais aller, je me rends compte que dessinateur ça peut être un métier et je suis pas obligé, comme le disait Charles, de faire un boulot qui m'ennuie, et cette chance là je n'ai encore aujourd'hui pas fini de l'épuiser, et de chanter cette felicita à l'italienne un peu dans l'écroulement et l'effondrement général, quoi.
Un boulot qui vous ennuie, aussi un boulot qui vous fatigue, parce que vous avez eu votre agrègue, vous devenez prof d'histoire chinoise, on l'a dit, vous enseignez combien de temps?
J'ai enseigné 2 ans véritablement, donc vraiment peu.
Et mais vous enseignez où?
J'enseignais à Normale Sup et j'enseignais à l'université de Marne-la-Vallée. Alors c'était des grands élèves.
C'est là où ça me fait rire, parce que tout d'un coup, quand vous parliez tout à l'heure des copies, c'est chiant, etc. Mais c'était pas du collège, quoi. C'était normal. Ouais, c'était à la fac.
Les copies de collège, c'est.
Je pense que vous n'avez même pas encore enduré.
C'est écrit
un quart
avec le coude et ça fait une demi-page, ça va vite à corriger. Mais je peux vous assurer que les copies de Normale Sup, c'est des pensums qui font 12 pages et on met des siècles et des siècles, on dort plus.
Non, hein, mais ça, c'est ce que dit le prof de fac au prof de collège, et le collège va répondre que peut-être que ça fait qu'une demi-page, mais voilà, c'est des problèmes de riche finalement par rapport au contenu, mais
c'est peut-être mieux écrit, oui.
Ouais. Mais c'était fatigant physiquement aussi, c'est ça que vous racontiez, parce que on parle rarement des conditions
horaires,
aussi concrètes de l'enseignant. Parce
c'est dessin, les profs. Franchement, moi, mes parents sont profs, j'ai un frère qui est prof. Autour de moi, je suis un enfant du mammouth. Hein, je l'ai beaucoup raconté dans Silex and the City, ouais. D'ailleurs. Mais en fin de compte, moi, j'admire à la fois cette dévotion, cette
mes parents étaient profs aussi. Quand on voit ce que c'est que la vie de prof, on n'a pas du tout envie de l'avoir.
Aujourd'hui, c'est très difficile,
non, mais
c'est bien
sûr. D'avoir les yeux qui piquent jusqu'à 2h du matin pour corriger des copies,
quand on est fils de prof,
on se dit, je vais pas faire ça.
Quand tu es fils de dealer aussi, hein, c'est pas
ça, je pense qu'il y a une joie, une exaltation à être prof et à transmettre, mais c'est tellement dur, et de plus en plus dur. Et en fin de compte, quels que soient les âges auxquels on a affaire quand on est prof, c'est pas payé, on a tendance à mettre en avant toujours les histoires des congés, des vacances, mais en fin de compte, les profs, ils bossent pendant les vacances,
clairement.
Ils lisent, ils préparent.
Et puis ils ne sont pas payés pendant les grandes vacances. Hein. Le salaire est étalé sur 10 mois, en fait.
Voilà, et en fin de compte...
Ils se régalent pendant 10 mois.
J'admire ça. Parfois, j'ai une forme de culpabilité de ne pas avoir continué à faire ça aussi. Je me dis, à ma façon, je transmets aussi par ces bandes dessinées. Si j'avais été prof de latin grec, peut-être que j'aurais raconté les choses un peu à la manière de 50 nuances de grec. Bon, voilà. Mais en attendant...
Ça aurait été bien aussi.
Voilà, ça reste remarquable.
Romain Brett, bonjour.
Romain
Polanski Brett, mais il prend une autre identité en ce moment.
Romain Brett,
et là on repart dans la mythologie.
C'est l'être romane.
Journaliste au Point, enseignant à Sciences Po en humanité politique. Vous êtes docteur en littérature grecque, agrégé de lettres classiques. Et vous avez publié aux éditions Les Belles Lettres, roman grec, cette fois-ci, roman grec et latin. Sur la Grèce de 50 nuances de grec, quel est le regard du spécialiste? Soyez intransigeant.
Non, le regard du spécialiste, parce que je connais bien le travail de Jules et de Charles Pépin.
Au-delà des vannes et des blagues, est-ce que tout ce qui est fidèle à ce que vous enseignez, ce que vous connaissez?
Oui, j'enseigne notamment à Sciences Po la relation entre le monde contemporain et l'Antiquité, en fait, où j'essaye d'expliquer des enjeux contemporains au miroir de l'Antiquité pour en souligner notamment la proximité et les écarts.
Un peu la même mécanique
que... Tout à fait. Ouais. C'est la même mécanique parce que finalement, d'un côté, on a la planche de Jules qui joue sur l'anachronisme, le calembour dans une tradition de bande dessinée qu'on connaît bien depuis Goscinny. Et puis on a Charles Pépin qui apporte un éclairage qui est un éclairage donc analytique et qui en même temps souligne, comme vous l'avez déjà indiqué, l'écart ou la différence peut-être avec l'anachronisme souligné par Jules. Et donc il met bien en évidence à la fois la proximité et la distance qui existe avec finalement ces mythes, ce qu'on appelle les mythes, mais le terme est complexe, hein. La mythologie, c'est un terme extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on appelle mythologie et qu'est-ce qu'on appelle mythe? Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien dans leur
bande dessinée. Expliquez-moi la nuance pour vous entre mythologie et mythe.
Non, c'est pas la nuance entre mythologie et mythe, c'est simplement que la mythologie, qu'est-ce qu'on appelle mythologie? Parce qu'aujourd'hui, la mythologie, ce sont
le savoir des mythes. Donc pour moi, les mythes sont dans la mythologie.
Voilà, enfin, vous voyez pas la différence. Ce que je voulais dire simplement, c'est que le problème, c'est que mythologie, comment on arrive aujourd'hui à bénéficier de ces récits, de ces grands récits, de ces grandes histoires, donc, qui forgent, donc, les mythes.
Est-ce que tout le monde est d'accord, d'abord, sur ces récits, sur la mythologie? Est-ce qu'il n'y a qu'une version de chaque mythe?
Précisément, quels sont les supports? Parce que la mythologie, elle nous arrive par une voie qu'on appelle médiatisée, c'est-à-dire que par différents supports, différents intermédiaires. On a, par exemple, les tragédies, qui sont évidemment une des sources privilégiées du mythe. Il y a la comédie, il y a les textes philosophiques, il y a l'histoire. Mais il y a aussi, au-delà des textes, on a des mosaïques, on a des céramiques.
Donc des interprétations.
Des interprétations diverses, et donc qui ne se recoupent pas toujours. On a différentes versions des mythes. Jules soulignait tout à l'heure que pour, finalement, l'histoire d'une naissance, on a plusieurs versions. Pour l'histoire d'Iphigénie, que vous évoquez dans la bande dessinée, le sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon, par son père Agamemnon, on a plusieurs versions. Dans certaines versions, Iphigénie est réellement sacrifiée. Mm-hmm. Dans d'autres versions, on a donc la déesse Artémis qui refuse ce sacrifice humain et qui vient et qui fait sacrifier une biche blanche à sa place et qui l'enlève. Donc on a différentes versions du mythe.
Comme Hélène. C'est pas forcément Hélène qui est partie, mais c'est l'image d'Hélène. Et pendant ce temps-là, elle était réfugiée chez un Égyptien.
Quand on traite l'histoire des Atrides et d'Agamemnon avec Xavier Agamemnon de Ligonès, en fait, qui est un psychopathe qui désingue toute sa famille, c'est une façon, je dirais, de tordre le cou aux différentes argusies et les interprétations du mythe des Atrides et savoir qui a tué qui, en fait, de le faire résonner avec quelque chose qui correspond à aujourd'hui le fait divers, et que le fait divers, comme figure éternelle de la condition humaine, elle est racontée dans les mythes de manière extraordinaire, et nous, on la fait résonner avec quelque chose d'aujourd'hui. Mmh.
Ça veut donc dire que pour aller sur la vanne et se rapprocher du fait divers, vous êtes obligé quand même de vous documenter, Jules, sur la réalité du mythe.
Bien sûr. De toute façon, un des principes de mon travail, et avec Charles Pépin depuis le début, c'est d'être très sérieux. En fait, ça, sans doute, Romain Brett pourra nous aider là-dessus. Mais j'ai découvert un terme qui est un terme grec du théâtre grec. C'est le spoudeo-geloion, qui est instruire.
Rire
et apprendre. S'instruire en s'amusant, le sérieux comique. Et c'est cette notion qui est grecque, c'est aussi la notion de la BD franco-belge depuis le début. Justement, Goscinny,
c'est totalement la base de la bande originale. Redites-moi le spoudeo.
Spoudeo-geloion. Et ça, je trouve ça fabuleux. Pour moi, je pourrais le graver à la porte de mon atelier.
À la fois du sérieux et du comique.
Du sérieux et du comique, c'est la meilleure façon de transmettre du savoir. Et effectivement,
apprendre en s'amusant. Ouais,
toutes nos vannes, elles sont fondées, elles sont extrêmement documentées. C'est le prof de philo et le prof d'histoire qui se mettent à faire des bandes dessinées marrantes.
Alors les trois profs là, de que ce soit Romain, Jules ou Charles, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière d'apprendre
en riant,
ouais. Est-ce qu'on apprend mieux? Est-ce qu'on retient mieux en ce moment?
Je dirais pas que c'est le rire qui permet l'enracinement de la mémoire, mais je pense que c'est l'émotion. Et ça, on le dit pas assez. Mmh. Alors ça peut être une émotion par le rire, une émotion par la tristesse, une émotion par la joie. Et moi, c'est ça qui me motive en tant que prof. Mmh. C'est ça qui me motive aussi dans les bandes dessinées avec Jules. Et même quand j'écris mes livres, en fait, et même quand je fais des conférences, j'aime bien l'idée, en fait, de toucher le cœur, quoi, qu'on fasse un peu frissonner et que la pensée soit sensible, elle est enracinée dans un corps et dans des émotions.
Ça marche pas avec tout. Parce que on va pas vendre non plus à tous les parents de France et à tous les élèves de France que on peut apprendre tout en riant, en étant ému.
Non, par l'émotion. L'émotion, c'est plus fort, je serais prêt
à le défendre.
Une déclinaison?
Je serais prêt à le défendre. Je pense que toutes les matières rendent ça possible. Et il faut pas oublier aussi que le fait de penser, c'est pas quelque chose de cérébral coupé du corps. Mmh. Ça nous procure une émotion de réfléchir.
Avant que nous arrêtions de discuter avec Romain, je voudrais juste faire deux, trois parallèles ou des mythes qui rapprochaient à l'actualité, vous ont sauté aux yeux, vous marquent ou que vous véhiculez vous-même dans vos cours.
Il y a plusieurs exemples. Il y a la question de MeToo. Typiquement, parce que c'est quelque chose, c'est un cours qui intéresse particulièrement mes étudiantes et mes étudiants de Sciences Po, qui est soulevé d'ailleurs, hein, c'était un des enjeux, c'est même en couverture de ce nouvel album. La question de MeToo, elle est extrêmement féconde parce qu'elle pose des problèmes de lecture, justement, précisément des mythes de l'Antiquité qui n'étaient pas envisagés comme tels.
Sur
les violences faites aux femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a Homère, mais peut-être l'auteur qui pose le plus de problèmes de ce point de vue-là, c'est Ovid. C'est le poète latin Ovid qui a écrit les Métamorphoses. Dans les Métamorphoses, c'est du viol quasiment tous les 100 vers. Et puis il a écrit un manuel de séduction qui s'appelle L'Art d'aimer. Et dans L'Art d'aimer, qui est un manuel de séduction, il y a des exemples où on dit, par exemple, l'expression qu'on a aujourd'hui, que MeToo a utilisée, quand elle dit non, en fait elle veut dire oui, c'est littéralement tiré d'Ovide. C'est littéralement quelque chose qu'on trouve chez
Ovide.
Ça calme,
ouais.
Voilà. Et donc ça, c'est très fertile et très fécond parce que on pose les questions justement de l'application peut-être de grilles de lecture contemporaine finalement à des textes antiques.
Merci beaucoup Romain Brett d'être venu à ce micro. Vous signez, je rappelle, aux éditions Les Belles Lettres, romans grecs et latins. On retrouvera évidemment Tanguy Pastureau aussi et tous nos invités juste après les infos de midi. La bande originale avec Léa Kadobunadi, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Tom Dulin, Daniel Morin,
bonjour Marina,
et nos invités Jules et Charles Pépin.
Bravo.
C'est 50 nuances de grec, le volume 2 qui est publié chez Dargo. L'encyclopédie des mythes et des mythologies, nuances, voilà, dont nous parlions tout à l'heure. Avec, et déjà, sur votre couverture, des vannes sur le hashtag MeToo qui devient Mytho, évidemment. Uber avec le cheval de Troie. Quelqu'un a commandé un Uber, c'est la première question qu'on pose, évidemment, quand on va arriver ce cheval de Troie devant la ville, avec toute la guerre qui va s'ensuivre. D'ailleurs, le démarrage de cette guerre aussi, vous y consacrez une planche à la raison pour laquelle il y a eu cette guerre de Troie, c'est parce que une promesse a été faite de donner la plus belle femme, de permettre en tout cas à Achille d'avoir la plus belle femme.
À Paris, non, en fait, c'est la déesse Eris, la déesse de la colère, qui n'était pas invitée aux noces de Tétis et Pélée, qui se dit je vais quand même pas laisser l'événement se passer comme ça. Elle a envoyé une pomme sur laquelle elle a gravé à la plus
belle. Je suis la plus belle.
Je suis la plus belle. Il fallait déterminer qui était la plus belle entre Athéna, Aphrodite et Héra. Et forcément, ça sème la discorde, la fameuse pomme
chacune,
de discorde.
La pomme de discorde.
Et chacune fait une chacune se, entre guillemets, dit pourquoi elle serait elle la plus belle.
Et voilà, ce qui est merveilleux avec la mythologie.
Et la dernière se déshabille. Non, je veux dire, la dernière se déshabille. C'est-à-dire que
Aphrodite se déshabille.
Aphrodite se montre nue.
Bon argument.
Ouais.
Ah bah elle était comme ça, Aphrodite. Hein. Dès qu'il fallait prendre quelque chose.
Ce qui est assez beau, c'est de se dire que Héris, c'est la déesse de la discorde, de la rivalité. Mais c'est très proche d'Eros.
À une lettre près, c'est ce que vous soulignez dans le texte.
Et c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a, quand on cherche la merde, on cherche à créer du lien, en fond. Et quand on cherche les ennemis, on veut quand même être regardé. Donc il y a quelque chose de cette proximité entre Eris et Eros.
Vous pensez donc que les Gilets jaunes, c'est une grande déclaration d'amour à Emmanuel Macron?
C'était pas social ni politique, c'était plutôt intersubjectif.
Ah, d'accord.
En tout cas, joli clin d'œil à France Inter avec la matinale qui est représentée.
Oui, parce que
ah, oui, exact.
C'est planche, vrai. Oui, parce que en fait, une des choses moi qui m'a frappé Léa quand j'ai travaillé sur le dieu Éole, qui est le dieu du vent dans la mythologie grecque, je me suis dit, et le dieu Éole, en fait, c'est l'équivalent de du dieu des énergies renouvelables. Hein. Bon, voilà, à l'origine des éoliennes, etc. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais c'est Nicolas Éole.
Enfin,
Nicolas
Éole. Il n'est pas à l'origine des éoliennes. Il est son nom a servi à l'étymologie.
Certes. Mais
on va remettre
ça à raccourci.
Ça va vite.
Ouais.
Non, et en fin de compte, si quand on veut traiter justement ces question d'environnement, bah c'est évidemment les premiers dieux de ce panthéon qui nous apparaissent.
Ouais.
Et en fin de compte, je me suis dit, voilà, je vais traiter cette histoire de Éole comme si Nicolas Éole démissionnait en direct dans la matinale de France Inter. Et donc, on met en scène Nicolas de Morant et Léa Salamé qui interviewent Nicolas Éole qui pète un câble parce que Zeus a décidé de faire passer l'Olympe au toute électricité. Et donc, il a un nouveau modèle de foudre diesel qui est une catastrophe. Et donc, évidemment, déjà, il y a Artémis qui flingue tout ce qui bouge dans la faune sauvage. Et donc, la biodiversité grecque, avec les chiens à trois têtes, les oiseaux du lac Stymphale, etc., est vraiment menacée. Donc, Éole pète un câble, il démissionne. Cette façon de traiter, qui est un peu marrante, justement, l'actualité, ça raconte un petit peu plus profondément aussi le rapport qu'on peut avoir, justement, à notre environnement et hériter de cette conception-là gréco-latine.
Et d'ailleurs, ça donne aussi une leçon d'humilité, parce que le dieu des vents, Éole, n'est pas vraiment un dieu très puissant. Il ne les crée pas, les vents. Les vents, ils ont leur rythme et leurs caractéristiques. Lui, il les organise, il les dirige. Il les aiguille et il fait pas plus que ça. Et c'est peut-être une leçon pour nous par rapport à l'écologie, c'est que voilà, on a une planète qu'on ne maîtrise pas et on peut juste essayer de l'aiguiller dans le bon sens, quoi.
On maîtrise pas. Si on a une planète qu'on abîme surtout, parce que
bien sûr, parce qu'on voudrait la maîtriser.
C'est ça. Ça s'appelle 50 nuances de grec. Le tome 2 est publié cette fin de semaine chez Dargo. C'est drôle et on apprend plein de choses. Ça résume ce que nous disions tout à l'heure. C'est signé Jules et Charles Pépin. Voici Tanguy Pastureau.
Eh oui. Voilà.
Tanguy, bah parce qu'on ne sait plus se saper en fait.
Et non, c'est fini. Avant la France, c'était des types en costume, comme dans les films de Claude Sautet, qui fumaient, picolaient, et donc décédaient à 45 ans, mais en costume. Le costume, c'est la classe. Regardez dans les mariages, le jour où ils convolent, le marié est tiré à 4 épingles, ou 277 épingles, s'il s'agit d'un mariage tunisien. Bah concrètement, c'est le seul jour où il est mettable. Dès le matin de la nuit de noces, la mariée le regarde au petit-déj, en t-shirt pourri et calbut 10 matrous, et elle se dit, mais trop tard, que la réponse apportée la veille au curé n'était pas la bonne. Pour être viable, la question devrait être, jurez-vous fidélité et assistance à votre futur époux, même s'il chope un petit gilet en laine sans manches lors des 15 jours de vraie. Et là, si elle répond oui, c'est qu'on a affaire à une union qui tiendra. Ce sont les relations les plus solides, les plus pures. Votre dame, Nagui, vous pouvez être sûr qu'elle n'est pas avec vous pour votre look, mais qu'elle aime donc ce que vous êtes à l'intérieur, comme on dit chez les proctologues. Pire, la femme de Michel Houellebecq est forcément avec lui pour son génie littéraire, parce qu'esthétiquement, avoir ça ou un hamster, c'est pareil. Alors que vous le sapez en deux fursacs, avec une petite claque de Christina Cordula sur les fesses, qui lui dit « Aïe, 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 mon chéri, avec ça, tu vas tomber de l'étudiante en prépa littéraire, à toi la chaude pisse. » Eh ben, c'est un cadeau. Regardez les pop stars. Avant, on avait Joe Dassin en costard de velours et chemise ouverte sur une forêt de poils. Le père du chef Raoni, pensant que c'était l'Amazonie, plongeait la tête parfois dedans pour retrouver sa hutte. Et aujourd'hui, on a Eddie de Préto en survêt jaune avec sur la tête un bob. Dans ses concerts, les gens lui jettent des pièces en criant « Courage bonhomme, tu vas t'en sortir ». 50% des cagnots de litchi dans le titre, il y a Eddie de Préto. Oui, nous les hommes sommes négligés et après on vient chouiner parce qu'on est cocu. On pleure, on dit « Ah mais pourquoi ?» Eh ben ouvre ton placard vieux. Si dedans il y a 3 pulls camionneurs, une doudoune réversible et des chaussures bateau alors que tu vis en Alsace, tu as ta réponse. Parce que l'élégance, c'est le premier des respects qu'on doit à l'autre. Quel message donne-t-on à la société en sortant dans la rue avec des bottes Hugues fourrées ? Ces gens n'ont rien à foutre de vous. Mais moi, je respecte plus une vieille dame bigleuse mais en tailleur qui aura roulé sur un enfant qu'une pétasse avec un col de capuche en poil de renard qui vote à gauche. Tenez, hier, je lisais le magazine Le Point, un journal sur l'islam. Ils ont fait un article sur les costumes hommes. En 8 ans, baisse de 60% des ventes. 60%, comparer la courbe avec celle des adhésions au Parti Socialiste, c'est la même. En 2011, 3,3 millions de costumes vendus. Aujourd'hui, 1 million. Il n'y a plus que des mecs en jean moulsgeg et basket qui pue. C'est la fin de notre civilisation. Tous, on est fringués comme si on allait faire notre kéno. Et cet habillement, maintenant, se propage aux entreprises. Avant, un Daniel Morin, on le trouvait qu'à Radio France ou dans les steppes mongoles en train de transformer des yaks en steaks dans la même chemise à carreaux que le bassiste du groupe Pearl Jam en 93. Mais là, nous dit l'article, même dans les entreprises normales, hein, celles où ça travaille, du lundi au vendredi, on s'habille comme le week-end. C'est une manière, d'après un styliste interrogé, d'abolir les frontières hiérarchiques entre subordonnés et supérieurs.
Donc tant qu'à licencier, un patron a intérêt à licencier en t-shirt.
Bah oui, si Zuckerberg annonce 6 000 licenciements en liquette Snoopy, on le trouvera cool. Alors que le patron de Renault fait la même chose en costard cravache, on se dira c'est Satan, jamais costard je n'achèterai de Renault cravate. On se dira c'est Satan, jamais j'achèterai de Renault. Ce que Neymar fait depuis toujours, il a pris une Porsche Panamera juste par conscience sociale. Le costume, c'était la domination, mais l'abandonner, c'est juste un acte symbolique. C'est le zoophile qui se déguise en bambou pour mieux approcher un gros panda. Regardez Laurence Bloch, la patronne de France Inter, une petite dame en pull qui bouloche. Vous avez envie de lui filer vos tickets resto en lui disant que quand on parlait d'économie à faire à Radio France, ça impliquait plutôt l'antenne. Elle a l'air placide, mais si un jour il y a un dérapage au micro, qu'Augustin Trappenard dit « il est barbu, il est beau, il écrit bien, profitons-en avant qu'on nous le remplace par un noir, Renaud Camus est dans Boomerang ». Eh ben là, Madame Bloch, même si elle est sapée comme Anémone, le dégagera. La fin du costume, c'est la fin des repères, on sait plus de qui se méfier. Les entreprises nous font croire qu'on est tous potes. Résultat, ton boss que tu devrais haïr, il ressemble à Philippe Martinez de la CGT, donc tu as pitié. Et puis le costard cravate, c'est un bel emballage, comme un cadeau. Sur le gonze, on retirait la cravate, la veste, le gilet, la chemise. Avant de faire l'amour, il fallait 28 minutes de manœuvre. Mais on se disait, en dessous, il doit y avoir une surprise. Hein, une épilation du pubis improbable, en forme de dollar, un sexe qui ressemble au visage de Bill Gates, enfin un truc de winner, quoi. Mais là, je me mets à la place de tout être attiré par les hommes, pardon. Mais vous déshabillez Philippe Delerme en vieux pull à col roulé, vous vous attendez pas à tomber sur la 8e merveille du monde. Philippe Delerme, ça revient à se faire offrir une smartbox intitulée « Séjour atypique ». Vous vous dites « Cool, ça sent la cabane de luxe en haut d'un pin ». Puis vous lisez la liste des week-ends possibles et il y en a 3, tous dans la Somme, dont 2 en yourte. Bref, dans moins de 2 ans, Macron arrive à l'Elysée en claquettes chaussettes. C'est n'importe quoi. La France n'est plus qu'un vivier putride de bobos en t-shirt informe. Le look des gens de la France insoumise mais étendu à tout un pays. Le cauchemar.
Bravo, Tanguy.
La bande originale. Nagui.
sur France Inter.
Ça fait penser à la boxe de Pandore, justement. On parle des boxes, mais elle y est
présente. C'est ça, oui, parce que les dieux décident d'installer la boxe de Pandore pour pouvoir capter tous les programmes. Grecflix, ce genre de... Bah, Canal Plus, où il y a des partout en direct. Plus, ouais. Voilà. Et en fin de compte, voilà, ça abétit totalement la population de l'Olympe. Donc, je ne suis pas sûr que la boxe soit un cadeau.
Non, mais ça marche bien, parce que cette boîte de Pandore, on l'a, qui n'était pas vraiment une boîte, d'ailleurs.
Qui est une jarre, en fait.
Voilà, c'est ça. Mais on a toujours dit, la boîte de Pandore se retrouve dans l'expression boxe. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait l'analogie, eux, quand ils ont
joué. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans tous les mots qui vont se déverser, sont là-dedans, bien, donc il y a la jalousie, la violence, mais il y a aussi l'espoir. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pourquoi l'espoir est un mal? Parce que ça nous détourne du réel auquel il faudrait dire oui ici et maintenant, en nous tournant vers l'avenir qu'il faudrait appeler de ses voeux. Et le vrai courage tragique, la vraie fermeté du héros, c'est de ne cesser d'espérer et d'aimer le monde comme il est, quoi. La vraie joie est sans
espoir. Pardon, je croyais que vous aviez fini. J'ai cru avant la fin de la phrase.
Il sait plus comment avoir le dernier mot.
Des questions concernant ce qui se passe dans notre culture, vous pouvez participer, Charles et Jules, si vous le souhaitez. Une nouvelle fiction va sortir avec Zorro comme héros, mais quelle est la particularité de ce Zorro?
Il est noir.
Non.
Il est gay.
C'est une fille. Femme.
Pardon, oui, exactement, c'est une fille. Vous étiez toutes les deux d'accord pour le faire en même temps. On va vous donner un point chacune, vous le méritez largement.
Et la moustache
Zorro, j'écoute, je sais pas. Les studios de...
Et ben c'est le en même temps, des garçons dans l'album, hermaphrodite, on peut avoir des attributs masculins.
Est-ce que Lucky Luke pourrait être une femme? Jules, vous qui êtes le Lucky Luke.
Ensuite, je suis sûr qu'il y a des révélations à faire encore. C'est-à-dire que ça fait longtemps. Non, mais ce sont des personnages qui sont pas extrêmement sexués. Donc, de toute façon, je dirais la fluidité, le gender fluide, la fluidité de genre qui est en train, peu à peu, d'émerger dans notre culture occidentale, elle est présente dans ces bandes dessinées-là. Parce que c'était des bandes dessinées pour enfants au départ.
On n'en fait pas trop. Que Zorro soit une femme, autant créer un personnage féminin justicière masqué, ce que l'on veut, mais quel intérêt de transformer quelqu'un déjà existant en le féminisant?
C'est le côté porte du foulard peut-être, oui, l'accompagnatrice scolaire de Zorro.
Là ça va aller encore plus loin, si on lui met un j'adore, ça va être assez compliqué. Qui vient de censurer deux livres éducatifs sur la sexualité en les assimilant à de la pornographie?
Poutine.
Non.
Bolsonaro.
Non.
Jean-Michel Blanquer.
Non.
Des associations.
Non.
Des éditeurs, des revendeurs.
Oui. Enfin, ouais, donc.
Amazon.
Ouais, exactement.
Mais non.
Et si.
Bravo.
Paru en 2016 et 2018, des ouvrages sont des guides pratiques avec des témoignages pour déculpabiliser les pratiques sexuelles et éduquer les lecteurs au consentement. Ces œuvres devenues problématiques aux yeux d'Amazon étaient pourtant en vente en format papier et numérique depuis 3 ans. Revirement de situation parce que les robots d'Amazon, les algorithmes, autrement dit, seraient les coupables de ce qui semble être un malentendu. D'après Amazon, les employés virtuels ont jugé pornographiques les couvertures des bandes dessinées à cause des couvertures suggestives. Amazon, pour l'instant, n'a rien dit.
Peut-être... Bonne nouvelle, Daniel a un gros stock, on revend tout sur leboncoin.fr.
Exactement. Pas cher.
Quelle maison mythique est-il possible de louer en Airbnb en Angleterre?
En Angleterre.
Abbey Road?
Non.
Charles Dickens?
Celle où ils ont tourné Downton Abbey?
Non.
Non.
Ah, c'est vrai.
Mais en tout cas, c'est dans l'idée.
Par rapport à la reine d'Angleterre?
Non.
Celle de Jack l'Éventreur?
Non, par rapport en tout cas à des fictions ou à des romans.
Là où ils ont tourné The Crown?
Non, mais t'es sur la piste, ouais. Entre Downton Abbey et The Crown.
Ils ont tourné Lord Paddington?
Non,
un truc de noble, Diana,
Orgueil et Préjugé.
Buckingham.
Un truc énorme.
Windsor?
Mais non, oui,
Sherlock Holmes.
Non, mais non. Dans le genre.
Harry Potter?
Oui.
Oh, on peut louer Harry Potter?
Exactement. Ouais. Exactement.
On peut dormir dans Harry Potter.
Là, on est dans du mythe d'enfant, en fait. Est-ce qu'il y a, dans Charles Pépin, dans vos souvenirs d'enfant, un endroit comme ça mythique dans lequel vous aimeriez séjourner, ne serait-ce qu'un week-end?
Ouais, il y a l'espèce de forêt à la fin de l'appel de la forêt, là, dans laquelle le loup repart une fois que son maître et ami est mort. Alors, ça lui rend sa liberté. Ça m'a toujours beaucoup attiré.
Je l'avais pas vu, vous m'avez spoilé, Charles. Merci beaucoup.
Jules?
Moi, mon modèle architectural, et là où j'aurais toujours voulu vivre, c'est chez les Schtroumpfs. C'est-à-dire de vivre dans des espèces de champignons géants, rond, comme ça. Et en fait, je suis à la recherche un petit peu de la maison des Schtroumpfs éternellement.
C'est possible, il suffit d'en manger un peu, et puis, très rapidement.
À propos de recherche de maison ou d'accueil, il y a aussi Carib et Scylla qui sont évoqués dans votre bande dessinée 50 nuances de grec. où la référence est clairement faite aux réfugiés et à leur souffrance.
C'est ça, parce qu'en fin de compte, quand on traite de la mythologie grecque, on pense évidemment à l'Odyssée et d'Ulysse qui erre à bord de son vaisseau à travers la Méditerranée.
Car ici, là, c'est fuir un mal et tomber dans quelque chose d'encore
voilà,
plus pire.
C'est deux monstres
c'est soit
marins,
le gouffre, soit le gouffre
entre lesquels et pris doit passer le voyageur qui traverse la Méditerranée. Et en fin de compte, cette traversée de la Méditerranée, ce tragique grec-là, on en a un écho monstrueux quotidiennement. Et en fait, moi, je sais que ça fait maintenant quelques années, que ce soit Silex and the City, La planète des sages ou 50 nuances de grec, où je pense qu'il est indécent de ne pas, dans la mesure où ça parle de notre société contemporaine, de ne pas sans arrêt mentionner avoir dans le viseur cette question des migrants qui traversent et ces noyades quotidiennes cette espèce d'habitude finalement et d'accoutumance qu'on peut avoir par rapport à ça qui est monstrueux quand on le regarde mais dès qu'on détourne les yeux on l'oublie, je pense qu'elle a besoin d'être présente et de le mettre en lumière avec la mythologie grecque. C'est aussi quelque chose qui nous permet de retrouver la part d'humanité qu'on peut perdre justement quand on s'accoutume à ça.
Surtout que quand on lit Homère ou Hésiode, on s'aperçoit que d'après eux, le propre de l'homme, ce qui le distingue de l'animal, donc c'est de manger du pain, de boire du vin, et c'est le sens de l'hospitalité. Et pour eux, l'étranger en
et qu'on
tapant,
on est grandi par l'humanité.
Exactement, l'étranger qui tape à notre porte nous fait un honneur et nous donne la chance de nous montrer généreux.
De tester notre humanité.
Et si bien qu'on pourrait penser que en refusant d'accueillir les migrants,
celui qui accueille et qui a accueilli, c'est le même mot.
Exactement.
Aussi. Donc c'est important.
Tout à fait. Et donc peut-être qu'en refusant d'accueillir les migrants, on manque de charité chrétienne, certes, mais aussi d'hospitalité grecque.
Karim Ancilla, de pire en pire, c'est vraiment ce qui va se passer avec Daniel Morin.
Sinon, il manquait quelque chose.
C'était offert.
Mais bien sûr. Non,
quoi ?
Le rock n'est pas mort.
Ah.
La preuve, Pete Doherty. Le chanteur anglais.
Ah oui, c'est vrai. Lui.
C'est pas le genre bobo, camomille, Netflix, best-of Francis Cabrel. Hein. Non. Une soirée normale pour Pete, c'est un peu de coke pour être en alerte, un peu de coke pour être créatif, un peu de coke pour ouvrir l'appétit, un peu de coke en dessert et un peu de coke pour digérer. Le problème, c'est que la cocaïne, c'est interdit, même avec modération. Du coup, ben oui, samedi, quand Pete, il va à Pigalle pour faire ses courses, la police l'embarque. Garde à vue, explication. Monsieur Doherty, lâchez à la détention, la consommation de cocaïne, c'est interdit. Mais je suis musicien. Non, toujours interdit. Mais je connais Nagui. Non, toujours interdit. Mais c'est de la coke bio. Non, toujours interdit. Bon, au bout de 2 heures de questions à la con, le flic, il en peut plus, il enferme le pauvre Pete. Le lendemain, Pete est dehors, il passe une journée pépère, tranquille, à base de prise de coke. Vers 22h, Pete va se coucher. Le problème, c'est quand tu as passé ta journée à prendre de la coke, le sommeil est légèrement capricieux. Du coup, Pete prend quelques somnifères. Ça marche pas. Pete regarde la chaîne publique Sénat. Ça marche pas. Il écoute un podcast d'Augustin Trapenard. Ça marche pas.
Étonnant.
Du coup, il sort de chez lui pour aller boire un verre. Et faut croire que l'envie de boire était forte, puisqu'il sort en pyjama. Il arrive dans un bar, il s'enfile un verre.
Tout ça, ça donne envie.
Ouais, puis un autre, etc., etc. Et c'est là qu'on se rend compte que le mélange coke, somnifère, alcool, le fameux CSA, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour engendrer un comportement, disons, apaisé. Non, il est pas apaisé, le Pete. Non, il est rock'n'roll. Il engueule tout le monde, yes! Il titube, oh, trop cool! Là, il y a un gars qui lui dit un truc hyper insultant du style
« Ouais, tu veux d'aide d'abord !»
Défoncé, mais toujours brillant dans sa répartie, Pete lui répond « Ouais, toi-même !» Et là, « Yes, motherfuckers !» Baston! Les deux gars ivres morts se roulent par terre, la police intervient. Pete, les invectives, C'en est trop pour les flics humiliés par l'insulte. Pour la deuxième fois en 2 jours, Pete est arrêté. C'est la tôle. Wow, ça c'est de la soirée. C'est taratatesque.
Non.
En même temps, même si on passe un bon moment, c'est clair. Hein. Qui autour de cette table ne s'est pas bastonné un soir ivre mort après avoir pris de la drogue, hein?
Ouais.
Bon, voilà, d'accord. Même si on passe de bons moments, faut faire gaffe, faut pas consommer n'importe quoi, les amis. Là, le problème, c'est clairement les somnifères. C'est chimique, c'est pas bon. Allez, vive le rock'n'roll, à demain.
Ah, c'est Baby Chambers.
Écoute, tout est bien orchestré ici.
C'est ça ?
Ça, c'est Libertines.
C'est Libertines ?
Ouais, ça, oui.
Ah ouais, c'est Libertines. Ouais. Enfin, c'est Pete Doherty.
Ouais, voilà.
Ça reste. Enfin, quand il a pas pris de coke.
Marina Rollman, qu'est-ce que tu retiens de ces 50 nuances de grec, de tout ce qu'on peut dire?
J'ai évidemment envie de les lire, mais ça m'a aussi donné envie de remettre le nez dans Ovid et dans les Métamorphoses.
Tu es sûr d'employer l'expression le nez dans Ovid?
Le nez dans Ovid, absolument, que je connais bien.
Voilà, tu la connaîtras beaucoup mieux. Leïla.
Non, mais moi, je trouvais toujours ça aussi ingénieux et aussi drôle, et justement, de faire ces ponts avec l'actualité, parfois des ponts que vous ne faites pas directement, mais qu'on se plaît à faire tout seul.
Tanguy Passureau.
Ben moi, je ne vais pas remettre le nez dans Ovid, je vais le mettre tout simplement, parce que j'ai encore jamais mis un pour moi un grec, vous voyez, c'est les petits sandwichs, donc j'ai tout à faire.
Tom Bila.
Ben moi, j'ai étudié un peu le grec en troisième, et c'était beaucoup moins marrant, et je pense que si voilà, on offrait opportunité aux élèves, voilà, un petit truc rigolo. Mais début, pour ouvrir, et puis après, on rentre dans le sérieux.
Ouais, je comprends, sauf qu'à un moment, il y a un passage par l'apprentissage par cœur, qui fait qu'il y a l'histoire, mais l'enseignement du grec, c'est pas que de la mythologie, c'est aussi de la langue. Et la langue, ça demande un peu d'effort, un peu de souffrance, comme on le fait dans la langue française.
On était dans le bien-être, voilà.
Mais je suis désolée, on peut pas vendre le côté ludique pour tout. Je trouve que c'est hyper démago et c'est pas vrai.
C'est une porte d'entrée.
Et on n'aide personne. Oui, une porte d'entrée, sauf que la porte d'entrée, certains parents voudraient qu'elle s'éternise pendant toute l'année. C'est pas possible.
Non, on est d'accord.
30 secondes par cours, ça mange pas de pain.
Et c'est souvent les profs les plus sympas, quelle que soit la matière, qui font passer aussi le mieux leur message.
Sauf qu'ils vous font souffrir un peu aussi. Et
ce qui est marrant, c'est que malgré tout, les profs de grec et les profs d'histoire ont massivement prescrit les 50 nuances de grec. Le Thomas, en fait, ça a été vraiment quelque chose qui a résonné dans les classes, dans les collèges et dans les lycées, et on s'y attendait pas forcément, justement.
Mais Daniel, parfois, je suis pas drôle. Hein.
Mais c'est ce que je dis, voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi aux gens, on n'est pas toujours drôle.
Bah, malice et intelligence, mais est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Je ne sais pas.
50 nuances de grec, vous aimeriez qu'on dise quoi, d'ailleurs, Jules, de votre ouvrage?
J'aimerais bien que qu'il serve à quelque chose. J'aimerais bien qu'il serve à dire qu'on a quelque chose en commun. Moi, je suis un peu inquiet par ce qui se passe en France en ce moment, et c'est-à-dire la façon dont la société se déchire, s'entre-déchire pour un oui ou pour un non, attisé par les réseaux sociaux, et autour des thèmes d'islamophobie, du voile, des choses comme ça, qui ont été des choses d'actualité en ce moment. Il y a quelque chose à dire que on a tous ce socle grec en commun qui a tellement à nous apprendre et tellement à mettre ensemble que voilà, c'est quelque chose de salutaire. J'espère que ça peut être prescrit par les médecins.
Charles, Pépin.
Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise? Que les concepts dansent et que les idées changent de visage.
Très bien. Des excuses à présenter?
Mais évidemment, désolé pour nos auditeurs nazis et néo-nazis pour les modernes, qui encore une fois ont été moqués, souillés par cette espèce de tablé de gauchos de France Inter. Ne me jugez pas, Nagui, vous savez, les sondages arrivent et on a besoin de tout le monde. Alors, désolé pour nos auditeurs austères qui n'aiment pas le Spoudo Geloyon. Eh bien, on s'en fout, hein. Allez vous faire foutre, les gars. Demain, c'est les sondages. On a besoin de tout le monde. Demain, je vous rassure, une émission sordide avec le roi de la chanson déchirante, Michel Jonas. Désolé enfin pour Madame Guy qui a découvert ce matin que Monsieur Guy ne voulait plus être priape. Alors, madame, je comprends cette déception, mais vraiment, en cas de besoin, je suis sûr qu'on va trouver des gens. Ah bah tiens, je fais rien cet après-midi, appelons-nous.
Moi, j'ai fait des enfants en Priap, non. Merci beaucoup, Charles Pépin, merci Jules. 50 nuances de grec, le tome 2, en vente libre à partir de vendredi, c'est publié chez Dargaud. En effet, demain, Michel Jonas sera notre invité, et pour du live, et pour parler avec lui. Pardon pour son retard, voici Philippe Bertrand pour ses carnets de campagne. Bonne journée, Philippe.
Merci, Nagui. Salut les amis.